Tiens, des cloches. Vous avez décidé de nous faire entendre des cloches, Frédéric. Peut-être pour finir cette chronique, à moins que ce soit un geste facétieux d'Alexandre Fougeron, notre réalisateur, pour accueillir à nouveau Henri Tinck. Vous publiez La grande peur des catholiques de France et ce livre fait part d'un certain nombre d'inquiétudes dont Frédéric Seize a résumé quelques points, l'idée selon laquelle, par exemple, il y aurait un oubli du catholicisme dans la politique française. Qu'en pensez-vous, Henri Tinck ?
Tout ça est excessif et tout ce qui est excessif est insignifiant. C'est vrai que la France a une tradition de laïcité. Disons-le, elle se pince parfois le nez lorsqu'il s'agit d'aborder ces questions religieuses parce que on a une histoire religieuse très compliquée depuis la Révolution française. Un grand historien comme Émile Poulain appelait ça la guerre des deux Frances, la France de Clovis et de Jeanne d'Arc et la France laïque, la France républicaine, quoi. Donc on a des problèmes vis-à-vis de la religion, c'est évident. Alors, faut-il souhaiter les fêtes religieuses? Oui, on peut.
Mais vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous pensez que le président devrait dire joyeuse Pâques?
Je pense que ce serait complètement inutile. Plus important de se poser la question de savoir pourquoi ces jours fériés, comme l'Ascension, comme l'Assomption, ces notions-là ont disparu de la mémoire, ont disparu de la culture aujourd'hui, on ne sait plus ce que ces fêtes religieuses qu'on prétend célébrer signifient réellement.
Bah alors moi j'ai une réponse, Henri Tinck, et il y a dans le Figaro du jour un sondage sur les jeunes, il dit que 10% des jeunes français se reconnaissent comme catholiques, tandis que 23% des jeunes français se reconnaissent comme musulmans. Est-ce que ça n'est pas un élément de réponse ?
Oui. C'est vrai que il y a une crainte très vive aujourd'hui. La grande peur des catholiques, c'est aussi ça. Une crainte très vive que les musulmans pratiquants, et surtout les jeunes, soient plus nombreux demain. Et ça l'est peut-être déjà réalisé. Les
si
musulmans
on en croit ce sondage de ce matin,
sont plus
en
nombreux
tout cas.
Que les catholiques pratiquants. Et ça, c'est une véritable question. L'autre question liée à celle-là étant celle que vont devenir les églises qui sont vides. Enfin, ça ne se voit peut-être pas à Paris ou dans les grands centres urbains, mais dans les campagnes, vous avez des tas d'églises qui sont fermées, qui n'accueillent plus de fidèles. Il n'y a plus personne. Donc, est-ce que ces églises ne vont pas devenir un jour des mosquées? C'est une...
Alors si vous dites ça, il faut rappeler Henri Tinck.
Mais ils sont là.
Il faut rappeler que si vous dites cela, ça n'est pas par hasard, c'est parce que la proposition en avait été faite un peu sur le mode du lapsus. Il faut rappeler dans quel contexte.
C'est Dalil Boubaker qui, le jour de Pâques même, avait été interviewé sur une station périphérique. Et c'était le moment du rassemblement annuel de l'UOIF, ce qu'on appelle les frères musulmans français d'une certaine façon. Ils se sont encore réunis ce week-end au Bourget. Et Dalil Boubaker, le recteur de la mosquée de Paris, avait dit il y a des églises vides par milliers en France et nous, les musulmans, nous n'avons que 2000 mosquées, très petites souvent. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un rééquilibrage. Dès le lendemain, il avait rectifié en disant c'est évidemment pas sérieux. Juridiquement, pratiquement, on ne peut pas imaginer que toutes ces églises deviennent des mosquées. C'est un fantasme absolu, mais ce fantasme anime les réseaux sociaux, anime les courants réactionnaires et anime cette peur au fond de l'islam qui traverse aujourd'hui, il faut bien le dire, les milieux catholiques comme le reste peut-être de la France.
La spécificité de la pratique religieuse chez les jeunes catholiques, toujours dans ce sondage de ce matin du Figaro, c'est qu'en réalité, il y a, alors c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de le dire simplement, chez les jeunes catholiques, en fait, il y a en France un socle assez important de jeunes catholiques qui ont une pratique très régulière, si on compare à la moyenne européenne. En revanche, la pratique irrégulière est là moins répandue. Qu'est-ce que ça signifie selon vous, Henri Tinck ?
Ça signifie effectivement que aujourd'hui, mesurer l'importance du catholicisme dans la population adulte comme chez les jeunes que vous citez, mesurer quantitativement l'importance du catholicisme par la participation chaque dimanche à la messe, ça ne signifie plus rien. Aujourd'hui, appartenir à une religion, c'est un sentiment d'adhésion à un certain nombre d'idées, de valeurs qui sont liées à l'héritage religieux, à l'héritage chrétien de la France, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est que ces jeunes, et même les adultes, pratiquent de moins en moins régulièrement, mais se retrouvent pour de grandes célébrations, pour des mariages, pour des retraites dans des monastères, pour des visites dans les églises, on lit plus la Bible. Voilà les nouvelles manières de pratiquer. Aujourd'hui, on pratique autour de temps forts de la foi chrétienne, les grandes fêtes et puis les grands rites de l'existence. C'est cela aujourd'hui qui définit l'appartenance à la religion, l'appartenance à la religion catholique et surtout chez les jeunes qui ne voient plus l'utilité d'aller à la messe absolument chaque dimanche.
Henri Tinck, on a beaucoup évoqué ce pape François, très à gauche, et vous, dans votre livre « La grande peur des catholiques de France », vous évoquez cet électorat chrétien qui est aujourd'hui de plus en plus à droite. Vous citez un chiffre, 38% des chrétiens se sont prononcés en faveur de Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça signifie? De quoi est-ce le symptôme, selon vous?
Oui, 38% pas de chrétiens, disons, 38% de catholiques pratiquants. Ce sont des chiffres qui sont vérifiés après les sondages sortis des urnes des grands instituts de sondage, bien entendu. Et c'est tout à fait surprenant et moi, ce chiffre me glace. À l'élection de 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen était opposé à Jacques Chirac, il y avait 17% des catholiques pratiquants qui avait voté pour Jean-Marie Le Pen, 17%. Aujourd'hui, 38%. 38% ont voté Marine Le Pen. Donc il y a une aggravation de la situation. Les catholiques qui étaient réputés faire partie du cordon sanitaire autour des idées du Front National, eh bien, ces catholiques résistants s'effritent. Alors, c'est symptomatique de deux choses. D'une part, la politique de dédiabolisation du Front National de Marine Le Pen a peut-être produit ses effets. Pourtant, c'est une figure laïque. Elle se cache pas d'être fermement laïque, mais quand même, elle paraît, à tort ou à raison, moins dangereuse que ne l'était son père. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a toujours et de plus en plus aujourd'hui un courant national catholique au sein du Front National. La figure majeure, c'est une Marion Maréchal Le Pen qui dit assister à la messe très 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 régulièrement, qui a manifesté contre le mariage pour tous, qui manifeste contre l'avortement, qui est reçu par un évêque dans le Var comme il y a deux ou trois années, ce qui a fait scandale. Donc cette catho-compatibilité d'une Marion Maréchal Le Pen qui la rapproche d'une droite un peu dure, décomplexée, autour des valeurs chrétiennes incarnées par un Laurent Wauquiez, il y a là une sorte de droite nouvelle qui est en train de se constituer avec des catholiques qui s'engouffrent dans ce courant, dans ce couloir, et qui ont des catholiques qui ont besoin d'être rassurés aujourd'hui, qui ont besoin d'être apaisés. C'est un peu le sens de mon livre. Il y a une peur devant la fragilité de l'institution catholique, devant la montée de l'immigration, surtout devant l'islam. Les catholiques ont été les premiers à se battre dans les années 70 pour la défense des immigrés. Aujourd'hui, ils sont, par rapport à l'institution musulmane et à la pratique musulmane, comme tous les Français, d'une certaine manière, ils sont animés par des peurs. La peur d'une laïcité peut-être un peu plus radicale, compte tenu des attentats terroristes, la neutralité religieuse qui est exigée aujourd'hui de l'islam, eh bien, elle se reporte sur les d'une certaine façon, indirectement, sur les catholiques. On leur demande d'être moins visibles dans la société, moins de crèches, moins de croix, vous souvenez, de toutes ces polémiques. Voilà la peur, une peur qui explique une droitisation et même une extrême droitisation d'une partie, minoritaire certes, mais d'une partie de la population catholique.
Malgré tout, est-ce que c'est une droitisation ou est-ce que c'est une disparition de la tradition chrétienne de gauche, les temps glorieux de la jeunesse ouvrière chrétienne? Bref, est-ce que ce pourcentage qui frappe 38% d'électeurs pour Marine Le Pen chez les catholiques, est-ce que ça ne signifie pas tout simplement qu'il y a une composante qui aujourd'hui n'existe plus, Henri Tinque?
Soyons clairs, vous avez parfaitement raison, Guillaume Herner. Les cathos de gauche, comme on disait, ont disparu. Comme a disparu ce qu'on appelait un peu la deuxième gauche à l'époque d'un Michel Rocard, par exemple. D'un mot, en 1981, la fameuse élection de François Mitterrand, 30% de la population catholique avait voté pour François Mitterrand, alors que il était soutenu par le Parti communiste, alors que c'était l'Union de la gauche. Là, cette année, enfin en 2017, pardon, seulement 14% des catholiques ont voté pour l'ensemble des candidats de gauche, que ce soit Benoît Hamon, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, même pas 14%, quoi. Donc, cette sensibilité, ce courant de gauche progressiste, qui se réfère par exemple à un pape comme le pape François à Rome, ce courant a quasiment disparu. Les grands mouvements militants, les mouvements qu'on appelait d'action catholique dans les années 60-70, ont disparu. Ces grands courants qui ont formé des générations de responsables politiques, des générations de responsables syndicaux. Jacques Delors, Edmond Maire, Michel Lebaptiste dans le monde agricole sont les produits de ce catholicisme militant des années 70. Celui-ci a disparu aujourd'hui. Je ne dis plus que les cathos gauches n'existent plus, mais on les voit. Ils sont moins visibles et une place plus large est faite au courant droitier.
Mais alors, je n'aimerais pas m'inscrire en faux par rapport à ce que vous venez de dire, mais malgré tout, vous citez aussi, Henri Tinque, dans votre livre, la manière dont certains catholiques se sont portés vers Emmanuel Macron, très majoritairement d'ailleurs, plus de 60%. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un lien parce que Emmanuel Macron se réclame de Paul Ricoeur, qui est un philosophe protestant important? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une manière quand même de voir une réapparition d'un président qui est quand même moins laïque que François Hollande, c'est évident, qui a même parlé de radicalisation de la laïcité, ce qui a fait sursauter pour le coup les laïcs? Qu'est-ce que vous en pensez?
Et en effet, et on attend, dans le monde catholique comme dans la société, disons, civile, le grand discours que Emmanuel Macron devrait faire la semaine prochaine, le 9 avril, au Collège des Bernardins, c'est-à-dire un temple de la réflexion catholique, puisque, comme vous le savez, le Collège des Bernardins appartient à l'évêché de Paris. C'est la première fois qu'il va s'adresser à un public catholique et on attend qu'il fasse ce grand discours sur les religions et sur la laïcité que tout le monde attend depuis un an. Pas seulement à cause de l'islam et des attentats terroristes, mais plus largement sur la question de la place des religions dans la société aujourd'hui. Donc, il y a des catholiques qui s'inquiètent des positions d'Emmanuel Macron. La droite catholique dont je parlais tout à l'heure lui en veut de n'avoir rien dit sur la loi Taubiraz, autre que on maintient la loi sur le mariage des homosexuels. On reproche aussi, on le soupçonne, Emmanuel Macron, de faire des avancées progressistes sur la fameuse question de la procréation médicalement assistée pour tous. En fait, pour la GPA. Donc, une certaine droite catholique s'inquiète, s'angoisse devant ce nouveau président, mais cette gauche catholique, encore minoritaire, à des espoirs quand même.
Henri Tinck, il faut dire que la question du mariage pour tous, puis aujourd'hui donc de la PMA et de la GPA, sont des questions qui ont profondément divisé à la fois le pays et en tout cas permis à un certain nombre de voix catholiques de prendre la parole et d'opérer une sorte de renouveau, renouveau souvent traditionnaliste.
Les catholiques sont à l'avance dans la réflexion sur la GPA et la PMA, parce que pour eux, ce sont des questions essentielles.
À l'avance, vous voulez dire, en tout cas, qui sont en pointe.
À l'avant-garde, en pointe. Et la presse catholique joue un rôle très, très mobilisateur et très formateur sur les grands enjeux de ces débats.
Mais pour quelle raison généralement... Expliquez-nous pourquoi.
Parce que c'est des questions fondamentales liées au corps, liées à la vie, liées aux droits des femmes. Et là, on est sur des questions vitales, existentielles pour les catholiques. Le statut de l'embryon, les conditions de la procréation aujourd'hui, pour des religions issues de la Bible, pour qui la création est d'origine divine, tout ce qui intervient à titre artificiel, qu'est-ce que c'est que, disent-ils, que les naissances à partir d'une opération soit chimique, soit artificielle, est-ce que le plan divin n'est pas remis en cause? Est-ce que on n'est pas en train de sortir d'une sorte de morale naturelle? Voilà, alors... On peut reprocher une certaine vision biologisante d'un certain nombre de catholiques, mais il y a des grands principes qui sont attachés. Plus généralement, le malaise vient que, disons depuis 68, je sais que les efforts que vous faites tous les matins à France Culture pour rappeler un peu ce qu'était 68 il y a 50 ans, mais pour beaucoup de catholiques aujourd'hui, le sentiment qu'il y a une sorte d'hégémonie culturelle, morale de la gauche, d'une gauche qu'ils appellent libérale, libertaire, qui fait que l'avortement, disons, selon leur langage, se banalise, qui fait que, après le mariage homosexuel, on va vers la PMA pour toutes les femmes, on va vers la GPA, c'est-à-dire des formes de marchandisation de plus en plus accrue de la société française. C'est ça qui les inquiète infiniment.
Et alors, qui du coup a provoqué, selon vous, c'est ce que vous expliquez dans La Grande Peur des catholiques de France, la naissance d'un parti intransigeant avec la réapparition de ce terme? Vous allez nous le resituer, Henri Tinck.
Oui, au XIXe siècle, après la Révolution française, après les idées de la Révolution qui se sont répandues à travers toute l'Europe, il y a eu un raidissement extraordinaire venant de Rome, c'est-à-dire venant de l'Église catholique. Les papes du XIXe siècle étaient presque tous des papes réactionnaires. On luttait à cette époque-là contre la liberté de conscience, contre la liberté d'expression, contre la liberté de la presse, contre le socialisme naissant. Donc cette intransigeance catholique du XIXe siècle, c'est une manière de résister aux évolutions libérale de la société moderne. C'était une manière de dire non, on n'avance pas. Les droits de la révélation, c'est-à-dire de la foi, de la Bible, sont supérieurs aux droits de l'homme. C'est un langage qui aujourd'hui a été largement remis en cause, bien entendu. Mais cette forme d'intransigeance, c'est-à-dire d'opposition, de résistance à une culture de plus en plus libérale, voire libertaire, cette résistance à une hégémonie culturelle d'une gauche qui se dit morale, elle se fait de plus en plus et a des caractères d'intransigeance. Et ce sont quelques évêques de gauche, disons, qui, dans les événements de la manif pour tous, dans les événements de 2002-2013, les grandes manifestations contre le mariage pour tous et la loi Taubira, ce sont des évêques qui, à ce moment-là, ont dit « attention, on est en train de ranimer la guerre des religions à l'intérieur même de ce pays, attention, affirmons des positions en tant que catholiques, mais pas de manière trop bruyante, pas de manière trop forte. On a entendu des slogans grossiers dans la manif pour tous. Et cela manifeste une sorte de, oui, disons-le, le mot est peut-être un peu fort, une sorte de nouvelle intransigeance catholique.
Mais alors, est-ce que ça va au-delà ? Parce que donc, on a bien entendu que tout ceci avait été provoqué, selon vous, par la manif pour tous. Est-ce que ça va au-delà ? Est-ce que, par exemple, vous considérez, Henri Tinck, qu'il y a, en quelque sorte, une volonté de revenir sur des acquis de l'Église dite progressiste ? Vatican II, par exemple, est-ce que cela va autoriser donc un certain nombre de traditionalistes à essayer d'opérer un retour vers les fondamentaux de l'Église catholique, ou bien est-ce uniquement une petite minorité au sein de l'Église qui, en réalité, n'a jamais cessé d'exister ?
C'est une minorité, c'est évident, mais c'est une minorité active et une minorité bruyante. Il faut savoir, il faut connaître la blogosphère réactionnaire catholique, tous les sites comme le Salon Belge, Réinformation.
Mais alors, vous citez par exemple le Salon Belge, il faut d'ailleurs en faire la présentation, vous dites 60 à 70 000 visites par jour, c'est beaucoup, mais cela signifie que c'est là aussi quelque chose malgré tout de minoritaires parmi donc tous ces jeunes qui se présentent aujourd'hui comme chrétiens, je pense donc aux 23% de jeunes chrétiens.
Oui, c'est minoritaire, mais il y a des courants catholiques disons non intégristes, non traditionnalistes, qui sont issus du Concile Vatican II et qui se rapprochent d'un certain nombre de prises de position des sites ou de la blogosphère réac, comme on pourrait dire, quoi, des prises de position sur l'islam, en disant pas trop d'islam. Le pape dont on parlait tout à l'heure est en train de trahir la vocation chrétienne de l'Europe en appelant les pays européens à accueillir toujours davantage de réfugiés et de réfugiés musulmans. Ce discours-là se répand. La frontière est de plus en plus poreuse entre les traditionnalistes intégristes qui ont rejeté le Concile Vatican II dans les années 60-70 et des courants catholiques non intégristes, mais qui ont besoin d'être rassurés et qui tiennent des discours qui sont proches.
Quel avenir alors ? On voit que, d'après ce que vous dites, Henri Tinck, il y avait une affinité plus forte entre ces catholiques de France et le pape précédent, Benoît XVI, puisque le discours sur l'islam était plus ou moins le discours de Benoît XVI. Est-ce que ça veut dire que le divorce va se prononcer de plus en plus ?
Ah, je crois que le divorce existe. Je veux pas apparaître trop amer, trop pessimiste. L'Église de France ne repose pas uniquement sur l'attitude de quelques sites réactionnaires. Mais là où il y a une action à mener, c'est de la part de la hiérarchie française qui me paraît tétanisée par ces divisions au sein de la population catholique en France.
Henri Tinck, La grande peur des catholiques de France, c'est le livre que vous publiez chez Grasset.